CQFD.
Brigitte Pitet-Queno, chef du service de chirurgie plastique reconstructive et esthétique des HUG, donc notre grand invité cette semaine. On va peut-être, Stéphane Delettroux, commencer cette première partie avec une petite biographie.
Voilà, Brigitte Pitet-Queno, vous faites vos études de médecine à Genève, diplôme en 83, suivi de 2 ans de post-grade aux États-Unis, puis FMH en chirurgie plastique reconstructive et esthétique. Alors, peut-être une première question, pourquoi avoir choisi, dans les spécialités de médecine, la chirurgie précisément?
Alors, c'est une spécialité que j'ai choisie au cours de mes études. Au départ, je voulais plutôt être un médecin de famille avec cette relation proche avec les patients. Et puis, au cours de mon stage, un stage notamment fait au Canada, dans les services, je me suis rendu compte que finalement, j'avais besoin d'un contact physique avec mes patients. J'avais besoin de soigner avec mes mains, que ça passait par mes mains, et j'ai découvert la chirurgie plastique là-bas, ça m'a passionnée.
Il y a le côté artistique dans votre spécialité?
Il y a un côté en tout cas créatif, on n'ose pas parler d'artiste, mais créatif, parce que évidemment chaque situation, après un accident, après une excision tumorale justement, est différent, et il faut à chaque fois inventer les techniques qu'on va utiliser, les modeler pour le patient lui-même, pour ses propres besoins.
Alors en 2004, vous êtes nommé à la tête du service de chirurgie plastique des HUG. Et puis je mentionnerai encore les 16 années au comité de la Société Suisse de Chirurgie Plastique, dont 2 à la présidence. Et en ce qui concerne l'académique, vice-doyenne pour les affaires humanitaires de 2007 à 2011. Et depuis 2014, vous êtes professeur ordinaire au département de chirurgie de l'Université de Genève.
Alors évidemment, Brigitte Pitet-Queno, on va longuement parler de reconstruction, hein, que ce soit après un cancer du sein ou après une maladie, par exemple, ou un accident, ou une maladie comme le noma, cette maladie qui ronge le visage. Mais peut-être, alors dans l'appellation de votre service, justement, vous êtes chef du service de chirurgie plastique, reconstructive et esthétique aussi. Est-ce qu'il y a une distinction, qu'on le sache directement maintenant pour savoir de quoi on va parler, entre chirurgie reconstructive et esthétique en termes de technique?
Alors, les techniques utilisées sont les mêmes, principalement. Il s'agit toujours de redraper les tissus, il s'agit de retendre, il s'agit de refaire un volume, une silhouette. Donc, on peut dire que c'est les mêmes techniques, mais simplement... Dans la chirurgie esthétique, eh bien, on essaye de tendre au rajeunissement. Dans la chirurgie reconstructive, on essaye de retrouver une intégrité corporelle après une lésion accidentelle ou chirurgicale, mais toujours évidemment avec un souci esthétique de toute façon.
Alors, est-ce que vous offrez, en fait, dans votre service, les services classiques, chirurgie esthétique, rhinoplastie, augmentation mammaire, liposuction, etc.?
Oui, bien sûr. C'est des techniques qu'on utilise pour des malformations, pour des reconstructions. Et bien entendu, quand des patientes viennent avec une demande esthétique, on est là pour y répondre. À Genève, nous sommes un centre de formation, donc c'est aussi important d'avoir cette activité pour former les futurs médecins de la ville à faire de la chirurgie esthétique.
Mais ça représente quand même cet aspect strictement esthétique, une toute petite partie de vos activités?
C'est exact.
Alors globalement, on fait de plus en plus appel dans la société en général à la chirurgie esthétique. Vous vous en rendez compte aussi parce que, me disiez-vous, de plus en plus de patients arrivent dans votre service après des complications post-opératoires?
Oui, c'est le cas malheureusement. L'hôpital est aussi fait pour ça, mais c'est vrai que on a une augmentation des cas de complications, et c'est souvent des cas qui ont été opérés en dehors de la Suisse et même en dehors de l'Europe, parce qu'il y a tout cet aspect de tourisme médical avec parfois malheureusement des complications qui ne peuvent pas être assumées par les médecins qui les ont opérés et qui finissent à l'hôpital.
C'est vraiment problématique, ce tourisme médical, notamment au niveau de la chirurgie esthétique?
Alors, je pense qu'il y a du bon travail qui est fait. C'est toujours difficile. Moi, je n'ai pas les chiffres et le taux de complications, mais c'est clair que les complications qu'on voit à l'hôpital peuvent être graves avec des germes multirésistants et des problèmes qui font que finalement le résultat esthétique est abîmé. Donc, je pense que oui, c'est un problème. Selon où c'est fait.
C'est peut-être plus souvent des problèmes entre guillemets d'hygiène que de maîtrise des techniques opératoires. Il y a des bons chirurgiens aussi à l'étranger.
Alors, il y a certainement des bons chirurgiens à l'étranger. Le problème est de savoir comment les sélectionner. Il y a certainement aussi des bonnes cliniques qui travaillent dans les règles de l'art. Toute la question est de savoir comment, selon quels critères les choisir.
Bastien. Est-ce que le critère prix est un bon critère pour choisir? Alors, c'est trop bon marché, faut vraiment se méfier.
Je peux pas vous répondre non plus parce que le coût de la vie est tellement différent d'un pays à l'autre que on peut pas vous dire quels sont les standards par rapport à.
Non, parce que c'est ça souvent qui incite les gens.
C'est ça qui incite forcément, mais c'est un peu forcément toujours moins cher qu'en Suisse, donc voilà. Bien sûr que c'est un facteur qui incite les gens à le faire.
Un mot peut-être sur les autres interventions. On a dit, on va laisser de côté le cancer du sein parce qu'on va y revenir. Mais vous intervenez suite à d'autres cancers que celui du sein notamment?
Oui, alors bien sûr, il y a tous les cancers de la sphère cervico-faciale qui sont souvent délabrants et pour lesquels il faut faire des reconstructions. Il y a des sarcomes au niveau des membres. Le cancer peut malheureusement arriver partout, donc on travaille aussi avec les neurochirurgiens pour les cancers au niveau du scalp. Donc oui, on collabore avec toutes les spécialités chirurgicales.
On fait aussi appel à vous après, par exemple, des fractures ouvertes?
Oui, alors dans les cas de traumatisme où on a une fracture ouverte avec une perte de substance des tissus mous et un os à découvert, eh bien faut venir reconstruire ces tissus pour recouvrir la fracture et parfois ça peut être des lambeaux microchirurgicaux qui sont nos spécialités.
Alors, il y a une activité qui vous tient à cœur, Madame Pitequeno, c'est la reconstruction après un NOMA. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler en fait ce que c'est le NOMA?
Alors, le NOMA, c'est une maladie qui survient chez des jeunes enfants entre 2 et 4 ans classiquement et qui est décrite comme une gangrène du visage parce que c'est une maladie fulminante qui va progressivement détruire les visages de ces enfants.
Elle se développe sur quel terrain, à la base?
Alors, évidemment que c'est une maladie qui touche les enfants qui sont en mauvaise condition, c'est-à-dire qui sont dénutris, qui ont des défenses immunitaires diminuées suite à une rougeole, une malaria. Donc, cette maladie qui était présente au Moyen-Âge en Europe, elle ne reste plus que dans les pays les plus défavorisés, comme dans la région subsaharienne où la famine est encore de mise, malheureusement.
Au départ, parce que c'est un petit problème de dents, on peut le dire, de gencives.
Alors, on a pu se rendre compte qu'effectivement, cette maladie se développait sur une maladie des gencives, une gingivite, et que cette gingivite qui est présente fortement chez les enfants de ces pays, et qui n'existe pas chez nous, est un des premiers stades du NOMA.
Et est-ce qu'on sait de quoi elle provient elle-même, cette gingivite?
Eh bien, les facteurs de risque sont les mêmes. C'est une diminution de l'immunité, c'est une diminution une malnutrition qui favorise.
Quelle est l'hypothèse la plus plausible pour le NOMA maintenant? Il y a des recherches qui ont été faites au niveau génétique, au niveau.
Alors, il y a eu beaucoup d'études microbiologiques parce qu'on a toujours pensé qu'il s'agissait d'une bactérie. On espérait trouver la bactérie et trouver un éventuel vaccin pour immuniser ces enfants. Mais en fait, après des études faites sur place pendant plus de 10 ans, où on faisait des prélèvements des enfants atteints en phase aiguë et des prélèvements contrôle chez des enfants du même village qui n'avaient pas la maladie, on n'a pas pu mettre en évidence une bactérie, mais ce qu'on a pu voir, c'est que il y avait un déséquilibre dans les bactéries. Vous savez que dans la bouche, il y a beaucoup, beaucoup de bactéries et que les bactéries se maintiennent en équilibre entre elles, et que là, dans le cadre du NOMA, il y avait un déséquilibre net.
C'est contagieux, le NOMA ?
C'est pas contagieux, mais par contre, on trouve des villages qui ont quelques cas de NOMA et d'autres villages qui n'en ont pas. Et on a pu mettre en évidence que, justement, des habitudes, des hygiènes de vie, le fait de mettre l'enfant au sein tout de suite après la naissance dans un village, ou au contraire, de penser que le premier lait, le colostrum, qui est tout clair, ne vaut rien, et on lui donne du lait de chèvre en attendant la montée de lait, eh bien, on a vu que ces habitudes avaient de fortes incidences sur l'apparition de la maladie.
Alors, elle débute, cette maladie, par une gingivite, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment elle se développe?
Alors ensuite, tout d'un coup, l'enfant va très mal. Il a un œdème du visage et un état fébrile qui peut tourner en état de choc. Et pendant cette phase aiguë, il est décrit habituellement que 80% des enfants décèdent. Et puis, si l'enfant survit, eh bien, en quelques jours, dans cet œdème facial, se délimite une phase de nécrose qui peut toucher les lèvres, le nez, la joue, mais aussi la mâchoire, les os sous-jacents, la mandibule, et créer des pertes de substances énormes. Cette zone de nécrose va tomber progressivement, et ensuite, il va y avoir un processus de cicatrisation qui va déformer bien sûr le visage avec toutes ces structures qui manquent, et qui va présenter des problèmes fonctionnels d'alimentation, de respiration. Notamment, cette cicatrisation qui se fait par constriction va empêcher l'enfant d'ouvrir la bouche progressivement. Et c'est ce qu'on appelle des constrictions mandibulaires qui sont très difficiles ensuite à traiter.
Vous le disiez, 80% des enfants atteints du NOMA décèdent. Les 20% restants, ils sont aussi un peu ostracisés, ils sont un peu mis à l'écart de la société?
Oui, alors clairement, ben déjà parce que dans ces pays, on a un peu l'impression que ça vous tombe du ciel, que c'est le mauvais sort, donc c'est connoté très négativement. Et puis ensuite, c'est des enfants qui ont des visages qui sont complètement défigurés et qu'on va cacher, qu'on va pas laisser aller à l'école. Ça a un impact social majeur pour ces enfants.
Combien d'enfants sont touchés?
Alors c'est difficile de savoir quels sont, combien de nouveaux cas, combien de plusieurs milliers en tout cas, mais dans le monde, en sachant que la région la plus touchée, c'est cette région subsaharienne en Afrique, mais il y a aussi quelques cas décrits en Asie, en Amérique du Sud.
Alors si j'ai bien compris, votre travail à vous, c'est donc de reconstruire ce que le NOMA a rongé. Et j'imagine, d'après la description que vous faites, c'est que ça concerne surtout le bas du visage, la mâchoire, les mandibules en fait.
Alors ça peut toucher l'œil, la paupière inférieure, jamais plus haut. Mais c'est vraiment depuis l'œil jusqu'au menton. Mmh.
Et on l'a compris, la chirurgie, elle est indispensable au-delà de l'aspect esthétique.
Alors bien sûr, c'est pour permettre à ces enfants de pouvoir ouvrir la bouche, de pouvoir se nourrir, de pouvoir avoir des lèvres qui fonctionnent. C'est clair qu'ensuite, nos reconstructions ne sont pas parfaites et que l'aspect fonctionnel n'est pas complètement rendu à ces enfants.
Donc on leur a compris, les parties nécrosées sont tombées, donc elles sont juste plus là. Donc j'imagine que la chirurgie est extrêmement compliquée. Comment est-ce que vous procédez ?
Eh bien, bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a différents types d'atteintes qu'on a classifiées. Il y a des atteintes juste des tissus mous qui se limitent à une partie de la lèvre. Et là, avec un lambeau local, on peut le régler le problème en mission. Et puis, il y a d'autres cas où la moitié du visage est détruit. Et à ce moment-là, il faut faire une reconstruction par étapes, en commençant par reconstruire l'os. Ensuite, les tissus mous de la joue. Et ensuite, on va travailler par unité esthétique en reconstruisant les lèvres, puis le nez.
Vous m'avez montré des photos avec des enfants qui avaient une sorte de bosse sur le crâne. C'était une étape dans la reconstruction. Ça servait à quoi ?
Alors, c'était une bosse sur le front. Ouais. Il s'agissait d'un ballon d'expansion qu'on met sur le front pour avoir suffisamment de peau à disposition pour reconstruire le nez. On va prélever de la peau sur le front pour reconstruire toute la peau du nez. Donc, pour pouvoir refermer l'endroit où on a prélevé cette peau, on fait une expansion cutanée avant.
Et ces reconstructions, vous les faites pour la plus grande partie sur place en Afrique, dans différents pays, aussi en fonction, le pays est choisi en fonction de la situation politique ?
Alors, nous avons ce programme de reconstruction de Noma avec une ONG Sentinelle qui nous a adressé les premiers patients en transfert, qui ont créé un centre Noma au Niger en premier à Zinder. Qui était une zone un peu endémique où il y avait beaucoup d'enfants atteints, qui en a créé un autre à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et en fait, c'est en travaillant avec eux qu'on a été amené à aller au Niger d'abord, voir les enfants qu'on avait opérés à l'hôpital à Genève, et puis de voir les cas qu'on pouvait traiter sur place. Quand la situation politique s'est déstabilisée au Niger, nous avons été au Burkina Faso. Et cette année, nous avons fait une mission au Bénin, mais toujours avec l'organisation Sentinelle qui nous a apporté les enfants.
Alors sur place, vos journées, j'imagine, elles sont très chargées. Vous êtes là pour quoi, une dizaine de jours ?
La mission dure en général 15 jours, mais dont entre 2 et 3 jours de voyage selon où on va. Et puis ensuite, c'est clair, c'est très intense. On commence une première journée de consultation pour voir tous les enfants et contrôler les indications opératoires, faire le programme opératoire. Et ensuite, c'est des longues journées de blocs opératoires et des consultations le soir.
Est-ce que quand vous faites ces consultations justement sur place, il y a des cas dont vous dites « ça va pas être possible » ?
Alors, bien sûr, malheureusement, et c'est évidemment ce qu'il y a de plus difficile, de se trouver devant un patient pour lequel on est obligé de dire non et de le laisser comme ça. C'est la raison pour laquelle moi j'aime bien pouvoir préparer mes missions avant, recevoir les dossiers des patients et pas faire venir des patients pour lesquels on ne sera pas capable d'apporter une solution.
Donc il y a les opérations sur place et puis vous opérez aussi d'autres enfants au HUG, des enfants qui viennent se faire soigner, vous l'avez dit, grâce à des ONG ?
Oui. Qui nous transfère ces patients. Et voilà, l'hôpital est ouvert à ce genre de collaboration. C'est une grande chance parce que je connais beaucoup de collègues qui travaillent pour réparer ces enfants du Noma, mais qui n'ont pas le choix que de faire tout sur place. Nous avons la possibilité de les ramener à l'hôpital et de les traiter dans des bonnes conditions et de pouvoir ainsi prendre des cas beaucoup plus gravement atteints.
C'est les cas les plus compliqués, oui. Ouais. Mmh. Et donc, vous travaillez notamment avec des sentinelles. Terre des Hommes aussi ?
Terre des Hommes, oui, bien sûr.
Et petit à petit, vous pensez que finalement, la prise en charge de ces enfants, elle devrait pouvoir se faire sur place avec des chirurgiens africains ?
Alors, bien sûr, c'est notre espoir. Et ça devrait être notre but, parce qu'un programme humanitaire, il a de sens que si on peut transmettre et rendre le pays indépendant. Le problème du Noma est que c'est une maladie qui a lieu dans les pays les plus déshérités, et où durant nos premières missions, par exemple, il n'y avait même pas de médecin dans l'hôpital dans lequel nous travaillons, donc pas de médecin à former. Heureusement, les choses ont maintenant changé et on a quelques médecins qui viennent à nos missions et qu'on arrive à progressivement former. C'est sûr que les cas les plus graves qui demandent des opérations compliquées avec de la microchirurgie, ça reste difficile à imaginer sur place.
Et donc sur place, vous avez aussi un rôle de formation sur place des chirurgiens sur place.
C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire, oui. Malheureusement, par exemple, il n'y a pas de programme de chirurgie plastique au Burkina. Il n'y en a pas au Niger non plus. Donc, c'est des gens qui sont formés en chirurgie maxillofaciale ou qui sont formés ailleurs. Mais voilà, on commence à identifier 2-3 personnes à qui on peut transmettre cette chirurgie. Et c'est réjouissant.
Mais est-ce qu'on peut imaginer que ces collègues, ils sont quasiment vos collègues, viennent se former à la base en chirurgie plastique ici, puis ensuite retournent dans leur pays et puissent continuer leur formation sur le terrain?
Alors c'est ce qui s'est beaucoup fait et ce qui se fait de moins en moins, parce que on se rend compte que d'une part notre façon de travailler et les pathologies qu'on rencontre chez nous sont totalement différentes et inadéquates par rapport aux pathologies et aux conditions de travail qu'ils vont rencontrer sur place. Donc, il faut qu'ils fassent leur formation le plus possible sur place. Et puis, il y en a qui viennent faire des cours stages chez nous. Mais il faut savoir aussi que nous, on ne perd pas des nomades tous les jours.
Ben
donc,
oui.
c'est pas très utile. C'est mieux de les avoir en mission. Je pense que c'est plus constructif.
Nous sommes toujours en compagnie de Brigitte Pitet-Kouenou en ce vendredi matin dans CQFD. Tout à l'heure, on a parlé de Noma, et il y a une autre cause en fait qui vous tient à cœur, c'est la reconstruction après un cancer du sein. Ça peut paraître étrange aujourd'hui, mais il semble que pendant longtemps, on ne proposait pas de chirurgie reconstructive.
C'est exact. Quand j'ai commencé ma formation, la grande majorité des cancers des seins étaient traités par mastectomie, c'est-à-dire l'ablation du sein. Et on voyait à peine 3 patients par année qui finalement venaient d'elles-mêmes et demandaient une reconstruction du sein. Mais ça faisait pas partie du traitement et elles nous étaient pas adressées.
Et pourtant c'est une chirurgie importante après un cancer, pour la suite de la vie de la femme.
Alors, évidemment que d'un point de vue médical, la vie de la femme et la maladie est traitée par l'ablation. Et c'est vrai que malheureusement, il a été longtemps considéré que finalement le traitement s'arrêtait là. Alors que un sein, ça fait partie de son intégrité corporelle, et qu'un sein en moins, on vit difficilement avec un sein en moins, ou en tout cas, beaucoup de femmes choisissent une reconstruction.
Mais quand ce n'était pas systématiquement proposé, il y a quelques femmes qui venaient spontanément, et maintenant que c'est proposé, est-ce qu'il y en a qui ne souhaitent pas la reconstruction?
Alors c'est très rare, mais il y en a, et je pense que c'est important de leur laisser le choix, bien sûr.
Une reconstruction, est-ce que ça se prépare en amont, déjà dans la manière d'opérer, d'enlever la tumeur, d'enlever le sein?
Alors justement pas.
Pas du tout.
C'est-à-dire qu'on doit justement respecter les marges oncologiques, c'est-à-dire ne pas réfléchir à la reconstruction. Ceci dit, c'est clair que la chirurgie d'exérèse est devenue progressivement beaucoup plus conservatrice. Avant, on enlevait non seulement le sein, mais le muscle grand pectoral et toute la peau du thorax, et on laissait cicatriser. Ça, c'était au début du siècle passé. Et puis maintenant, on en est venu au fait que c'est très rare qu'on enlève complètement tout le sein. On laisse en général au moins la peau, ce qu'on appelle une mastectomie avec épargne de la peau, ce qui permet une reconstruction en gardant la peau du thorax. Ou bien on fait des traitements conservateurs, c'est-à-dire qu'on enlève juste la tumeur. Et alors, dans ces cas-là, on est appelé pour remodeler le sein, pour boucher, reformer l'harmonie, la forme du sein avec un lambeau de glande, et symétriser l'autre côté pour qu'elle ait les deux seins de la même taille.
Donc la technique de reconstruction, elle va dépendre de ce que le chirurgien a fait avant vous?
Voilà.
Et puis, l'anatomie de la patiente, qu'est-ce qu'il y a comme autre critère ?
Oui, alors, l'anatomie de la patiente est importante. Le type de chirurgie, donc, est-ce qu'il a fallu enlever, malgré tout, une partie de la peau parce que la tumeur était trop proche de la peau ? Est-ce que la patiente avait des grands seins et qu'il reste suffisamment de peau pour faire une reconstruction sans avoir à rajouter de la peau ? Et puis, il y a aussi le facteur du traitement ensuite, notamment de la radiothérapie qui crée une fibrose des tissus et sur ce terrain, les reconstructions par prothèse sont plus compliquées, se compliquent plus souvent et donnent des résultats souvent pas très satisfaisant ni très confortable.
Oui, donc il y a deux grands types de techniques, avec prothèse ou avec les tissus de la patiente. Prothèse, vous l'avez dit, ce n'est pas toujours possible pour des radiothérapies, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de peau. Mais par contre, ça permet de faire une reconstruction immédiate ?
Alors, les reconstructions immédiates sont possibles avec les prothèses comme avec les tissus autologues. Et c'est effectivement un choix qui est discuté avec la patiente avant l'opération de l'ablation. Et c'est très important de pouvoir se concerter avec le scénologue pour savoir quel type d'exérèse il va faire et qu'est-ce qu'on peut proposer à la patiente comme type de reconstruction.
Les tissus maintenant, puisqu'on a parlé prothèses, les tissus, ils sont prélevés où les tissus qu'on utilise ?
Alors,
s'il n'y en a plus assez à l'endroit voulu.
Voilà, donc le site donneur classique pour apporter du tissu au niveau du sein, c'est l'abdomen, c'est-à-dire la région entre l'ombilic et le pubis, qui est une région où il y a une laxité cutanée et graisseuse souvent qui permet de prélever une grande palette cutanée et graisseuse et de pouvoir refermer directement en ayant un petit gain esthétique au niveau du ventre parce que ça correspond à une abdominoplastie esthétique. En revanche, nous avons maintenant des patientes de plus en plus jeunes qui viennent pour des cancers du sein ou pour des mutations génétiques qui fait que la mastectomie préventive est indiquée et où la quantité de tissu disponible au niveau du ventre est pas suffisante. Elles ont encore le ventre plat. Et donc là, c'est un problème parce que ça abîme leur ventre. C'est plus un gain esthétique, mais ça peut abîmer le ventre avec une grosse cicatrice.
Alors, il y a différentes techniques utilisées. Il y en a une qui est appelée reconstruction du sein par lambeau du grand dorsal. Comment est-ce que vous pratiquez ?
Alors là, on utilise la peau du dos qui va être vascularisée à travers des vaisseaux qui viennent du muscle grand dorsal. C'est pour ça qu'on appelle le lambeau du grand dorsal. Ce lambeau, il a son pédicule au niveau du creux axillaire. Donc, on va pouvoir laisser le pédicule connecté et tourner la palette de peau et de muscles dans un tunnel sous-cutané pour atteindre le sein. Alors que la reconstruction par le ventre, il faut disséquer les vaisseaux. Maintenant, on a une technique qui permet de laisser la musculature au niveau de l'abdomen. Donc, on va disséquer les vaisseaux à travers le muscle. On va les couper au niveau du pédicule pour avoir une artère et une veine qui ont entre 2 et 3 mm de diamètre. Et ces vaisseaux, on va les reconnecter au niveau du thorax pour refaire circuler le sang dans ce tissu. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lambeau libre microchirurgical. Et c'est des longues opérations.
Et vous refusez d'être appelé artiste quand même.
Alors ça, c'est l'enveloppe. Il y a le volume, parfois, on l'obtient comment ?
Alors, avec le lambeau du ventre, dans la grande majorité des cas, il y a suffisamment de graisse sous la peau pour pouvoir recréer le volume du sein. Au niveau du dos, le volume, il n'est pas toujours suffisant, mais on a modifié un petit peu la technique. Cette technique, c'est pas nous, mais cette technique a été modifiée un peu avec le temps pour récolter un peu plus de graisse au niveau du dos et éviter de mettre une prothèse, puisque l'alternative serait de mettre une prothèse sous le lambeau si on veut plus de volume.
Alors, reste encore pour terminer le mamelon et l'aréole. Là, vous reconstruisez un peu plus tard et comment ?
Oui, alors le mamelon et l'aréole, c'est important de le placer très précisément, de façon symétrique sur le thorax par rapport à l'autre côté. Et donc, il faut que le sein soit reconstruit et cicatrisé, ait eu le temps de prendre sa forme avec la gravité. Donc, il faut toujours attendre 4 à 6 mois avant de reconstruire ce mamelon et cette aréole. Ce mamelon, il est reconstruit par un petit lambeau à 3 bras qui est tourné sur lui-même. Et l'aréole, c'est une greffe de peau qu'on prélève soit sur l'aréole contralatérale, donc de l'autre sein, soit une peau un peu pigmentée sur la face interne de la cuisse, par exemple.
Bastien,
est-ce qu'on peut conserver les sensations ?
Non.
Il y a une alternative en fait, c'est le tatouage, il me semble que j'ai entendu sur la première il y a quelque temps une émission là, sur une personne qui faisait ça.
Alors bien sûr, le tatouage est possible, donc à ce moment-là c'est un vrai trompe-l'œil comme on les voit sur les immeubles, ces dessins qui montrent un 3D qui n'en sont pas. Mm-hmm. Le tatouage est capable de faire ça. Ensuite, je pense que d'avoir une projection du mamelon est importante pour les femmes. Donc, en règle générale, on fait quand même ce lambeau qui permet une reconstruction, une vraie reconstruction en 3 dimensions. Et ensuite, elles peuvent affiner la couleur avec le tatouage.
Il y a un combat, on parle de combat que vous menez, il y a un autre qui est, et là c'est... Je dirais Silvio, c'est l'artiste en vous, c'est la symétrie effectivement des deux seins. Mais le combat que vous menez, c'est pour que finalement cette symétrie soit prise en charge.
Oui, tout à fait. Parce que heureusement, depuis quand même plusieurs dizaines d'années maintenant, la reconstruction du sein est complètement prise en charge par l'assurance maladie. Et lorsqu'on voulait rééquilibrer la poitrine, comme disent les Allemands, dit Brust, eh bien, il fallait toucher l'autre sein lorsqu'il est trop volumineux ou lorsqu'il est un petit peu tombé vers le bas. Donc, c'est important, cette symétrisation. Et ça sert à rien de faire un joli sein si de l'autre côté, le sein n'est pas symétrique.
Brigitte Pitacuano, on va peut-être terminer en parlant de l'aspect recherche, ce qui est mené dans votre service. Vous avez un exemple, par exemple?
On a ouvert, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un labo de recherche en 1996. Et on a beaucoup travaillé sur le processus de cicatrisation. Il faut dire qu'on avait à la faculté de médecine un pathologue qui a décrit la cellule de la cicatrisation, le myofibroblaste. Et donc on a mené toute une champ d'études avec lui pour essayer de comprendre comment cette cicatrisation se faisait et surtout de trouver des moyens pour stimuler la cicatrisation lorsqu'elle se faisait mal, comme dans les plaies chroniques ou les escarres.
Et vous travaillez notamment sur le rôle des cellules souches dans le processus ?
Alors, effectivement, c'est un sujet actuel, c'est un sujet à la mode qui est probablement pas tout à fait prêt à passer en clinique, mais on a aussi étudié le rôle de l'oxygène, le rôle de la pressothérapie, c'est-à-dire ce pansement aspiratif qui fait une stimulation mécanique du lit de la plaie et qui a été la découverte la plus importante de ces 20 dernières années dans la cicatrisation des plaies.
Le passage justement de la recherche à la clinique, il y a quelque chose là qui a été fait au niveau de ces cicatrisations. Une solution qui est simple, naturelle, qui m'a étonné moi. Vous utilisez du miel ?
Oui, on utilise du miel parce que c'est un très bon cicatrisant, c'est un très bon désinfectant, c'est un très bon débridant du tissu nécrotique, des cellules nécrotiques, parce que c'est un produit qui est hyper osmolaire. Et puis le miel contient des agents anti-infectieux, antibiotiques. Donc c'est ce qui est très couramment utilisé en Afrique. C'est là-bas que, en tout cas, moi, je l'ai vu utiliser avec succès. Et puis maintenant, effectivement, ils ont même, ils fabriquent du miel en Australie avec des modèles, des abeilles spéciales qui sont...
C'est extraordinaire cette alliance entre la très très haute technicité, la finesse, la microchirurgie et d'un autre côté, du miel. C'est fascinant ça, non? Ça vous fascine pas, vous?
Oui, bah, je trouve que c'est beau parce que ça permet d'éviter les pansements très très compliqués et que c'est à la portée de tout le monde et de tous les pays surtout. Et je pense que c'est important.
Quand on parle de technicité, il y a par exemple la thérapie hyperbare. En quoi ça consiste?
Alors, ça consiste à mettre le patient dans un caisson qui est généralement utilisé pour les accidents de plongée, qui permet d'augmenter la pression atmosphérique et ainsi d'augmenter la pression atmosphérique de l'air respiré et de permettre à l'oxygène de diffuser dans le sang et dans les tissus. Donc, d'amener beaucoup d'oxygène dans les tissus.
Parce qu'il y a, un problème lorsque les plaies ne cicatrisent pas. Là, on parle de plaies chronique, c'est quelque chose qui est compliqué à traiter. Il y a une recrudescence, c'est quelque chose qui coûte cher, qui est difficile à traiter.
Alors c'est évidemment une pathologie qui est de plus en plus fréquente avec l'âge vieillissant de la population, avec les survies qui augmentent, avec le diabète, les problèmes vasculaires, etc. Donc c'est clair. Et dans ces plaies chroniques, un des facteurs les plus fréquemment retrouvés, c'est le manque d'oxygène au niveau de la plaie. Donc ça permet de pallier à ce problème-là. Mmh.
Je vais vous poser une toute dernière question, Brigitte Pitequeno, parce que vous nous l'avez soufflé, hein, on va dire les choses comme ça. Vous teniez à dire que vous aviez réussi à faire carrière tout en ayant 4 enfants, je crois. Pourquoi est-ce que vous teniez à dire ça?
Mais je crois que c'est un message pour les femmes de savoir que c'est possible maintenant. Évidemment que ce serait plutôt à mes enfants de le dire, peut-être que je le déconseillerais. Mais je pense que c'est vrai que nos enfants nous donnent de l'énergie pour notre travail nous donne de l'énergie pour nos enfants parce qu'on a de la satisfaction aussi dans notre travail et que c'est pas incompatible. Et je pense qu'il faut le savoir, qu'on n'est pas obligé de faire une croix sur sa vie de famille parce que on fait une carrière.
Bien, merci beaucoup pour ce témoignage et pour tout le reste, Brigitte Pitequeno. Je rappelle que vous êtes chef du service de chirurgie plastique reconstructive et esthétique des HUG. Vous avez répondu à l'invitation de Stéphane Delettro. Je vous souhaite une très très belle journée et puis un bon retour à Genève.
Merci beaucoup.
CQFD sur la première.